Voilà ce que nous lisons au chapitre 13 de l'évangile de Jean. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son manteau et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Là donc, ce sont les premiers versets de ce chapitre 13 de l'évangile de Jean. C'est avec ces paroles que nous voulions vous accueillir les uns les autres ici, sachant que d'abord, avant toute chose, Jésus-Christ est là pour accueillir et qu'il accueille comme serviteur, précisément en se mettant aux pieds des disciples et en leur lavant les pieds, comme le faisaient les serviteurs à l'époque ou les esclaves à l'époque. Lorsque les gens arrivaient dans les maisons, qu'ils étaient invités ou de passage, c'était un rite de bienvenue, tout simplement, parce que les gens marchaient souvent à pied ou avec des sandalettes, hein. Alors, tous les disciples de Jésus sont là au cours de ce dernier repas. Ils sont là finalement comme nous aujourd'hui, les jeunes bien sûr, les enfants qui sont présents, certains sont au premier rang ici, il y a des catéchumènes qui sont présents en ce jour de Pentecôte, de confirmation, de baptême, d'accueil de jeunes. Il y a leurs familles aussi qui sont là, certains sont assez proches, d'autres viennent de plus loin évidemment, il y a des amis bien sûr, les habitués qu'on voit souvent le dimanche, et puis il y en a aussi d'autres, j'en suis certain, qui sont de passage simplement. Mais je crois qu'il est important de savoir que toutes et tous, quelle que soit notre appartenance, nous sommes accueillis dans l'esprit de Pentecôte, évidemment, puisque c'est aujourd'hui le jour de la Pentecôte. L'esprit de Pentecôte qui est un esprit de vie, de joie, d'espérance, un esprit de partage, de service et d'accueil. Et en ce jour de fête, que la grâce de Dieu le Père, l'amour révélé en Jésus-Christ et la force de l'Esprit soient sur chacune et chacun d'entre vous. Amen. Et j'espère que vous avez le cantique dans vos mains pour pouvoir chanter comme il se doit. Et je vous invite tout de suite à prendre le psaume 81. C'est que nos sangs joyeux, nos cris d'allégresse. On le chantera en entier, hein. Je vous invite à prier Dieu. Oui, Père, que nos chants soient joyeux, pleins de vie et de reconnaissance. Dans ce monde opaque et hélas encore trop souvent violent, comme le montre l'actualité, dans ce monde où les injustices sont si grandes, donne-nous la force de te reconnaître, de puiser en toi l'énergie nécessaire pour marcher dans tes voies. En toute confiance, nous te remettons nos vies, avec leurs zones d'ombre et de lumière, sachant que par Jésus-Christ, tu nous accueilles toujours tels que nous sommes, pour nous ressourcer et pour nous relancer dans la vie. sur du pardon en Jésus-Christ, c'est dans la joie de la présence de Dieu, la joie du face-à-face ineffable que nous confessons notre foi. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu, notre Père. Il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a souffert, il est mort, il nous pardonne. Il est la vie et la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit, présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix aux hommes de bonne volonté. L'Esprit de Dieu crée et recrée le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois en la communion de tous, dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à rester dans cet esprit de confession de foi en prenant le cantique 216, Saint-Esprit, Dieu de lumière.
Recueillons-nous dans la prière. Éternel, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant dans nos existences des chemins de lumière. Nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi, en ton esprit qui souffle sur le monde du commencement jusqu'à la fin des temps. Éternel, ouvre nos portes intérieures pour qu'à travers les paroles que nous allons entendre passe au plus profond de nous ton souffle créateur. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à écouter la lecture de la Bible. Il y aura trois textes ce matin. Tout d'abord, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 37 à 39. Jésus déclare : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, il s'agit de la Pentecôte juive, qui est le souvenir de l'alliance du Sinaï. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Puis dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 9 à 11 et le verset 16. Nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et j'ai posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons la joie de fêter Pentecôte et le dimanche des confirmations, et nous le faisons avec des dizaines et des dizaines de paroisses protestantes, puisque c'est la tradition dans le protestantisme de choisir le dimanche de Pentecôte pour cette célébration des confirmations. Je vous propose de mettre la prédication de ce matin sous l'égide d'une question de l'apôtre Paul que nous venons d'entendre dans l'Épître aux Corinthiens, la première au chapitre 3 et au verset 16. Cette question s'adresse à nous tous. mais plus particulièrement aujourd'hui aux catéchumènes. L'apôtre Paul déclare : Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul. Alors j'aimerais placer cette prédication sous l'éclairage, pour les trois étapes successives de cette prédication, de ces trois vertus théologales que l'on trouve à la fin de l'hymne à l'amour, l'hymne à la charité de 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. Tout d'abord, la foi. Ne savez-vous pas ? Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette question dans des cercles théologiques, dans le cadre d'études bibliques ou bien entendu de la catéchèse ? Ne savez-vous pas ? C'est une question fréquente. Ne savez-vous pas que cette épître aux Corinthiens est suivie d'une deuxième épître ? Et que probablement il y en avait une troisième que l'on n'a jamais retrouvée. Puisqu'on parle de Paul, ne savez-vous pas que la première épître aux Thessaloniciens, Thessalonique est une ville alors de Macédoine, de l'Empire romain, ne savez-vous pas que la première épître de Paul aux Thessaloniciens est le plus ancien écrit de tout le Nouveau Testament. J'insiste là-dessus parce qu'on dit souvent que Paul, par rapport aux évangiles, a donné à ses évangiles une orientation différente après leur proclamation. Pas du tout, puisque les épîtres de Paul ont été écrites avant les évangiles. Ne savez-vous pas que cet épître aux Thessaloniciens est d'ailleurs le plus ancien de tous les écrits chrétiens connu jusqu'à ce jour. Ne savez-vous pas, puisqu'on parle encore de Paul, qu'Augustin, saint Augustin, au 4e et au 5e siècle de notre ère, saint Augustin a vécu la chute de Rome, la chute de l'Empire romain, la prise de Rome par les barbares, et en 410, c'était par Alaric. Même si Augustin vivait en Afrique du Nord. Ne savez-vous pas qu'Augustin et Luther, au XVIe siècle, réformateur, nous fêtons cette année le 500e anniversaire de la Réforme, 500e anniversaire par rapport aux fameuses thèses, les 95 thèses de Luther. Eh bien, ne savez-vous pas qu'Augustin et Luther n'aurait jamais pensé ce qu'ils ont pensé, écrit ce qu'ils ont écrit, s'ils n'avaient pas rencontré les épîtres de Paul. Et Luther allait très loin. Il allait jusqu'à dire que l'épître aux Romains est bien plus un évangile que les évangiles, notamment de Matthieu, Marc et Luc. Et on sait que cet épître aux Romains, dans l'histoire du protestantisme, est presque devenu un cinquième évangile après Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ne savez-vous pas ? Certes, mais un savoir aussi juste, aussi complet, aussi fidèle à la Bible serait-il ? Ce n'est pas la foi. Il faut faire une différence entre la foi et les croyances. Les croyances, c'est croire que. On croit que Jésus ou Dieu sont ceci ou cela. La foi, c'est croire en Dieu et en Jésus. Par exemple, il ne suffit pas de croire que Dieu existe. Il y a beaucoup de gens qui croient que probablement, à l'origine de l'univers et du temps, il y a un Dieu. Croit-il en Dieu pour autant ? De même qu'il y a des gens qui croient en Dieu dont nous sommes, mais qui se demandent souvent Dieu existe-t-il véritablement? Les croyances, les doctrines sont des expressions intellectuelles, souvent magnifiques, mais combien fragiles, de la foi. Alors la foi, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une ouverture à ce qui nous dépasse. La transcendance, comme on dit, Dieu. Voyez-vous, depuis que l'homme est l'homme, il refuse, pour se définir, de s'en tenir à ses seuls horizons spirituels. Il dit ce qui le dépasse. Il refuse d'enfermer l'homme dans l'homme, quand il définit l'homme, dans une sorte de pétition de principe. L'homme est toujours plus que l'homme. Le poète de l'Antiquité latine dit quelque chose de magnifique à ce sujet. Il dit, c'est une image, l'homme est pareil à un oiseau dont les ailes sont plus grandes que son nid. Et puis la foi, c'est bien sûr un geste de confiance. Un geste de confiance par rapport à Jésus, à ses paroles, son enseignement, sa prédication, mais aussi à son exemple. Voyez-vous, il y a dans les Actes des Apôtres un discours de Pierre, c'est au chapitre 10, où il est dit, c'est très beau, c'est Pierre qui dit cela, l'apôtre Pierre, Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Voilà. La foi, c'est donc aussi une manière de vivre. Et chers catéchumènes, on ne vous demande pas en ce jour de signer une confession de foi en bonne et due forme avec ses différentes parties implacables. D'ailleurs, lequel d'entre nous pourrait en faire autant sans le faire avec un bon nombre de réserves? Une question vous est posée. Dans ce débat, croire et savoir, acceptez-vous de prendre au sérieux la question de Dieu, les questions religieuses, du christianisme, de la Bible, et de continuer dans une quête spirituelle votre recherche? Acceptez-vous de ne pas dire « tout cela m'est indifférent » Tout cela est sans intérêt pour moi. Tout cela ne me concerne pas. À l'heure d'un baptême, passé, on confirme son baptême, ou actuel, on dit au baptisé, que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non, Dieu t'aime et cela ne dépend pas de toi. C'est un don de Dieu, c'est la grâce. On parle souvent du sommaire de la loi, le résumé, le condensé de la volonté de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous essayons d'aimer. Nous essayons de faire du bien. Non pas pour être aimé de Dieu, pour obtenir quelque chose de lui, mais parce que Dieu nous aime. Et nous faisons donc cela de manière désintéressée. Dans la première épître de Jean, qui se trouve dans la Bible, au chapitre 4, verset 19, il est dit, « Quant à nous, aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » C'est là le fondement de la foi et l'expression de la grâce. Après la foi, j'ai dit l'espérance. Où est Dieu? C'est une question que nous nous posons. Nous savons bien que Dieu n'est pas au ciel, même si on dit notre Père qui est aux cieux, parce que la conception du monde que nous avons aujourd'hui n'est plus du tout celle que l'on avait au moment des textes bibliques. Dieu n'est pas non plus dans des choses. Dieu n'est pas non plus dans un livre, fût-ce celui de la Bible. Parce que la parole de Dieu dépasse infiniment les 66 livres de notre Bible, Dieu parle où il veut, à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Dieu ne peut pas être enfermé non plus dans une église. Il dépasse les frontières sectaires de nos églises chrétiennes. Dieu n'est pas non plus dans un lieu, dans un bâtiment. Il n'est pas dans un temple, dans une église, dans une synagogue, dans une pagode, dans une mosquée. À l'entrée de la cathédrale de Nantes, qui est très belle, elle est très sobre, il y a une petite affichette qui demande aux visiteurs et aux touristes nombreux de faire silence. Je trouve cela tout à fait normal, parce qu'il ne faut pas déranger ceux qui viennent là pour se recueillir ou pour ne pas troubler des célébrations, des messes. Mais cette affichette ajoute qu'on nous demande de faire silence parce que c'est ici la demeure de Dieu. Bien sûr que non. Bien sûr que non. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul, j'y reviens, qui, d'après un discours qui nous est relaté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, un discours qu'il prononce à Athènes, devant des philosophes, déclare l'apôtre Paul, « Dieu n'habite pas dans des temples faits de la main des hommes. » Où est Dieu ? L'apôtre Paul répond, « En nous, en vous. » C'est une réponse assez audacieuse et même révolutionnaire. Au temps de Paul, quand on sait ce que représentait le temple de Jérusalem pour les Juifs, avec, pour eux, la manifestation de la présence de Dieu dans ce temple. Où est Dieu ? Il est en nous. Et c'est exactement ce que dit le message de Pentecôte que nous relisions tout à l'heure dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 4, où il est dit des témoins qui fêtent la Pentecôte juive, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous êtes, nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. C'est une parole forte. C'est une parole qui valorise notre condition humaine, qui dit quelque chose de très positif pour nous. Et cela peut susciter un enthousiasme, un bonheur, une lumière. Un écrivain français contemporain, catholique, Julien Green, dit de Dieu qu'il est un abîme de lumière. Eh bien, nous participons de cette lumière. Dans ma Bible, chaque fois que je prêche, depuis plus de 50 ans, j'ai avec moi une carte postale, toujours, où que je prêche. Sur cette carte postale, il y a un portrait du pasteur Wagner, le fondateur de notre paroisse en 1907. Et sous ce portrait, il y a une citation de Wagner qui dit « L'homme est une espérance de Dieu. » Il renverse les choses. Alors que nous disons toujours, Dieu est une espérance de l'homme. Lui vient nous dire, mais l'homme aussi est une espérance de Dieu. Et pourquoi j'ai cela avec moi quand je prêche ? Parce que les prédicateurs, quels qu'ils soient, sont toujours tentés d'apporter une vision sombre, triste, pessimiste de l'être humain. Il faut résister à cela. L'homme est une espérance de Dieu. Nous ne devons pas sortir des cultes avec la tête basse, accablée et triste. Nous devons sortir de nos cultes encouragés pour vivre la semaine, enthousiasmés par cet esprit de Dieu qui nous habite. Vous êtes une espérance de Dieu. Dieu habite en nous, au moment difficile de la vie. Quand nous connaissons des échecs, quand nous sommes victimes d'une injustice et quand nous sommes confrontés aux injustices qui nous entourent, connaissant parfois aussi des souffrances physiques insurmontables, des souffrances spirituelles parce que notre foi est habitée par mille questions et tourments, quand nous connaissons un deuil cruel, la solitude, la haine, quand nous sommes confrontés à la laideur du monde. Albert Camus disait que nous sommes confrontés au visage ensanglanté de l'histoire. Alors nous sommes tentés, et c'est bien normal, de dire « Mais que fait Dieu ? Où est Dieu ?» Il se tait, nous avons l'impression que nous ne le rencontrons qu'à travers son silence et son absence, et nous sommes rejetés sur les rivages de l'incrédulité. Où est Dieu ? Voyez-vous, dans ces moments-là, n'oublions jamais cette question de Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous, que Dieu est en nous ? Aurais-je oublié cela ? Dieu lutte, Dieu combat en moi, avec moi, parce qu'il souffre avec moi toutes ces douleurs que je peux connaître. Théodore Monod, peut-être que cela vous dit quelque chose, cette grande figure protestante, Théodore Monod, l'homme du Sahara, l'homme du désert, le grand explorateur, aimait à citer, je l'ai souvent entendu me le dire, son père, Wilfred Monod, le pasteur, le théologien de la paroisse voisine de l'Oratoire, Wilfred Monod qui disait « Dieu ne nous préserve pas de la foudre, mais Dieu nous préserve quand nous sommes foudroyés. Il est en nous, il nous porte, il nous accompagne, il nous permet de vivre ce dynamisme créateur qui est le sien. La foi, l'espérance et l'amour ou la charité. Le temple, c'est dans ce texte de Paul une image. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette image parle d'une construction, de quelque chose qui n'est pas achevé, qui est dynamique, qui est entraînant, qui est mobilisateur. L'Esprit de Dieu nous anime et nous porte dans le chantier du monde. Cela peut susciter en nous des élans, des actions, des passions, des révoltes positives, constructives et non pas nihilistes, un espoir. J'aimerais vous lire quelques lignes d'Albert Schweitzer. On vous en a parlé au catéchisme. Albert Schweitzer écrit ceci. Dans ma jeunesse, j'ai entendu entre adultes des conversations qui m'étreignaient le cœur d'une indicible tristesse. Ces adultes reconnaissaient dans leur idéalisme d'autrefois et dans leur capacité d'enthousiasme des biens précieux qu'ils auraient dû conserver, mais en même temps, il leur semblait nécessaire de les avoir abandonnés. La peur me saisit alors de me voir un jour réduit à regarder mon passé avec la même tristesse. Je résolus de ne pas me soumettre à la tragique nécessité de devenir un homme raisonnable, à ce vœu qui n'était que bravade d'adolescent, j'ai essayé de conformer ma vie. Sauvegarder l'enthousiasme qui est en soi. C'est encore ce que dit l'apôtre Paul, et cette fois dans cette première épître aux Thessaloniciens que je citais tout au début de cette prédication, au chapitre 5, Paul dit « N'éteignez pas l'esprit. Oui, n'éteignez pas la flamme qui est en vous, qui est en l'autre. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu, un esprit d'amour, un esprit de générosité, un esprit de fraternité. Nous allons vivre, et pour certains d'entre vous, pour la première fois, mais vous y êtes tous invités, la communion, la Sainte Cène, l'Eucharistie, la Sainte Liturgie, comme on l'appelle selon les confessions chrétiennes. Nous allons vivre la communion. Cette communion, elle a une double dimension. De manière symbolique, on pourrait dire qu'elle a une dimension verticale, communion avec le Dieu de Jésus-Christ. Mais qu'elle a aussi une dimension horizontale, puisque la scène exprime un repas et un partage. Voyez-vous, dans le Notre Père, cette prière commune à tous les chrétiens, quelle que soit l'Église qui les abrite. Dans la prière du Notre Père, il y a deux parties. La première partie, ce sont les requêtes qui concernent Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, par exemple. Et la dernière étape, ce sont les demandes qui concernent l'être humain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Par exemple, eh bien, les premières demandes qui concernent Dieu commencent par notre Père et les premières requêtes qui concernent l'être humain commencent par notre pain de ce jour. Et c'est une erreur qui fausse complètement l'orientation de cette prière que de l'appeler le notre Père. Parce que justement, elle n'est pas que le Notre Père. Le vrai titre de cette prière devrait être « Le Notre Père, notre pain ». Joindre les mains, c'est rejoindre les autres. Un christianisme spirituel, celui de la piété, du recueillement, des cultes, de la prière, est inséparable d'un christianisme pratique et social qui nous jette sur les chemins de la vie à la rencontre des autres. Et au cœur du culte chrétien, ce souci de l'autre, des autres, est si profondément inscrit que ce repas du Seigneur n'aurait plus aucun sens s'il n'était cautionné au moins dans le secret de quelques cœurs par cet amour sans frontières qui exige que nous partagions notre pain spirituel, culturel, matériel, avec les autres, en étant les premiers à réclamer des réformes sociales, écologiques, économiques, susceptibles de nous conduire vers une plus juste répartition de nos biens sur cette terre. Communion. Alors, que puis-je vous dire en conclusion ? Oui, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignons pas l'esprit, et ne désespérons jamais, ni de nous-mêmes, ni des autres, ni de Dieu. Amen.
Nous allons rester sous la lumière de l'Esprit en accueillant les jeunes qui sont ici, les catéchumènes, ceux qui ont décidé d'être baptisés, de renouveler leur baptême, et puis les autres aussi qui sont solidaires, évidemment, qui ont suivi le catéchisme. Donc je vais leur demander de venir. Je vais d'abord appeler Kian, où est-ce qu'il est ? Et puis Thibaut, évidemment. Le premier sera baptisé, le deuxième a demandé à ce que son baptême soit confirmé. Et puis les autres, avec Serge Tatichev. Allez, venez par ici qu'on vous voit un peu là.
Bonjour à tous. Donc je présente les trois qui viennent d'arriver. Félix, ils ont tous les trois fini une ou deux années de catéchumat. Donc il y a Félix, Tilde, Pauline. Voilà, c'est les trois dans cet ordre. Je pense aussi à ceux qui n'ont pas pu venir. Fanny qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Je pense également à trois autres qui n'ont pas pu venir, donc Esaïe, Fanny, Serena et Kelly. Serena et Kelly vont confirmer au Cameroun au mois de décembre. Et puis, je pense également à Anne Lison qui est en train de confirmer dans la paroisse luthérienne de Bon Secours en ce moment même, et donc il n'a pas pu être avec nous pour cette raison.
Voilà, il y a un côté quand même assez sympa dans ce groupe de catéchumènes cette année, puisqu'il y a il y en a qui sont de l'église du Cameroun, d'autres qui sont des luthériens, voyez, donc, et des réformés. Donc c'est quand même une image de l'église universelle qui est assez sympathique finalement. Nous pensons à eux comme il se doit, et donc c'est assez logique. Alors ces catéchumènes ont choisi deux textes qu'ils voudraient partager avec vous. Le premier, dans la première lettre de Jean, c'est juste un verset, mais c'est un verset sur lequel on pourrait faire toute une prédication. Et puis, le deuxième texte qui sera lu, c'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, c'est l'hymne à l'amour, au chapitre 13 de cette première lettre de Paul aux Corinthiens.
Épître de Jean, chapitre 4, verset 7. « Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et parvient à la connaissance de Dieu. »
Première lettre des Corinthiens, chapitre 13. « Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de la science, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne plastronne pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne s'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. Car notre connaissance est limitée. Et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, donc ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand.
Voilà, donc ces deux textes ont été choisis par l'ensemble du groupe des catéchumènes pour vous dire un petit peu ce qui compte essentiellement pour eux. Mais je crois que le choix est vraiment excellent. En ce qui me concerne, je ne sais pas pour vous. Vous le lirez peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, mais enfin bon, quand vous les accueillerez. Donc je vous invite à me suivre.
Voilà, les baptêmes, les confirmations, l'accueil de jeunes dans la paroisse, dans une église, et tout. toujours un moment de joie et d'espérance. Et c'est vrai que le baptême est le signe d'une présence qui est là, ineffable, et nous dit quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire cet amour qui a été chanté dans la lettre de Jean et dans la lettre de Paul, que vous avez entendu tout à l'heure. Et c'est vrai que pour que nous puissions, à travers des signes, vivre d'une certaine manière, si je puis dire, les rappeler, les actualiser, Jésus nous a demandé de vivre ces signes. Et c'est pourquoi, à la fin de l'évangile de Matthieu, il y a cette parole: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'Église que Dieu, par sa grâce, a conclu avec son Église. Là, je crois que les parents ici présents, vous avez la joie d'accompagner vos enfants. Et même que les paroissiens ou ceux qui sont de passage partagent évidemment cette même joie avec vous, évidemment, étant persuadés les uns les autres qu'ils sont bel et bien, comme il a été dit tout à l'heure, eux aussi le temple du Saint-Esprit, comme tout à chacun, évidemment. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Je crois que l'ambassadeur Gagnéman nous a, je vais dire Laurent, ça manque un peu de respect. Le pasteur Gagnéman a bien souligné cet aspect qui me semble tout à fait essentiel, véritablement. Voilà, Dieu nous rappelle aussi à tout à chacun, c'est peut-être pour ça aussi qu'il se passe quelque chose d'important, parce qu'il n'y a pas seulement d'un côté ceux qui sont baptisés, qui confirment, et en face les autres, mais qu'il y a vraiment cette communion qui est là. Parce que Dieu nous rappelle à toutes et à tous le baptême que nous avons reçu. Il nous invite à demeurer fidèles à la grâce qui nous a été faite le jour où nous avons été baptisés. Dans la communion de l'Église et de Jésus-Christ qui prie pour ses enfants, nous nous engageons les uns les autres à les accompagner tout au long de leur vie. Nous contemplons Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître. Il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père, de Jésus-Christ et le Seigneur. Guillaume, que demandes-tu ?
Je demande le baptême.
Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne ?
Oui.
Guillaume, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Guillaume, Dieu t'accomplit jusqu'ici, à travers ta vie, avec ta famille, tes parents, tes amis. Il t'a conduit tout au long du catéchisme pour que tu viennes parmi nous, pour nous dire ton engagement et ta foi, pour participer à la joie de Dieu, pour participer à notre joie que nous partageons avec toi. Priant que le Seigneur te bénisse et te garde, maintenant et à jamais. Amen. Thibaut, alors c'est intéressant, parce que Thibaut est baptisé, mais il a été baptisé dans l'Église catholique. Et c'est intéressant parce que, au-delà de nos bisbilles, de nos chamailleries entre catholiques et protestants, il faut quand même savoir qu'il y a entre nous un certain nombre de choses qui nous unissent. J'en parlais avec certains au début de avant ce culte. Nous avons en commun avec les catholiques toute la Bible. On a aussi en commun à peu près 12 siècles de pères de l'Église. C'est pas mal. Hein? Voilà. Et peut-être bien encore d'autres choses, à savoir un Saint-Esprit qui souffle quand même dans nos églises, qui bien souvent souffle dans le bon sens, dans le même sens, de telle sorte que nous puissions aller les uns et les autres sur la même route, dans la même direction. Alors il y a des choses qui sont en commun, d'autres choses qui ne sont pas encore, pour des raisons dogmatiques, théologiques, qui sont un peu compliquées, mais le baptême est œcuménique. Le baptême est œcuménique. C'est-à-dire que si on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est fait. Voilà. Et je pense que le prêtre qui, il y a quelques années, je ne sais pas, a baptisé Thibaut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il a très bien fait. Il n'a pas besoin de recommencer. Alors, en revanche, après avoir suivi le catéchisme ici, avoir assisté à quelques cultes derrière ses parents, eh bien, Thibaut a demandé quoi ? Voilà, la confirmation de son baptême. Alors là aussi, je pose la même question qu'à Kian. Est-ce que tu veux confesser la foi de l'Église universelle ?
Jésus est le Seigneur. Oui, Jésus est le Seigneur.
Très bien. Thibaut, tu es confirmé dans les engagements du baptême qui ont été pris par tes parents, par ta marraine, et confirmé dans l'Esprit, qui est là au cœur de ta vie, qui t'a accompagné lui aussi tout au long des jours. Que cet Esprit brille en toi, maintenant et à jamais, va en paix, toi aussi dans la présence du Seigneur qui te conduise et qui te garde. Amen. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui. La foi dont vous avez entendu quelques mots tout à l'heure, il est notre sauveur et c'est s'engager aussi à lui obéir, car il est aussi notre maître. Voulez-vous donc, avec le secours de cet esprit, vous efforcer de vivre en chrétien, autant que faire se peut, en aimant Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même?
Oui.
Ben, écoutez, tous les deux, et puis tous les trois, parce que vous êtes associés à tout cela, en tant que témoin, évidemment, et vous avez suivi le même catéchisme, ça va de soi. Certains n'ont pas tout à fait fini, d'autres aussi, puis il y en a d'autres qui vont aller sur d'autres choses, de l'autre côté de l'Atlantique bientôt. J'espère que l'aventure continuera, évidemment. Bien, les uns et les autres, vous avez votre place dans l'Église. On a tous notre place dans l'Église. Qu'on soit baptisé, pas baptisé, qu'on aille pour la première fois, qu'on soit là depuis longtemps, pas que la place soit marquée dans nos églises, dans les églises universelles, évidemment. Je crois que c'est intéressant. Et puis vous avez votre place aussi à la table du Seigneur. Donc vous serez invité tout à l'heure à participer à la communion. Là aussi, il a été dit, il y a des choses sur ce partage de communion avec la présence de Dieu, avec la présence de toutes celles et tous ceux qui sont autour de cette table, et bien d'autres encore auxquels nous passons, évidemment. Vous avez votre place autour de cette table aussi, et votre part aussi au travail de l'Église. Alors, tous les cinq que l'Esprit a permis sur votre foi et vous conduise jour après jour jusque dans l'éternité. Amen. Alors, on n'a pas tout à fait fini, hein. Vous avez entendu ces catéchumènes, vous les voyez. Alors, je pense qu'on va leur remettre un livre, on le fait toujours. La réforme est une fille de l'imprimerie, il ne faut pas l'oublier. J'avais fait le calcul un jour de savoir combien d'Allemands pouvaient avoir un livre de Luther au XVIe siècle. Et le chiffre est ahurissant. C'est-à-dire, dans tous les foyers allemands, il y avait la possibilité d'avoir plusieurs livres de Luther, tellement il y a eu d'éditions et de rééditions au XVIe siècle. C'est vraiment tout à fait incroyable. Et donc la Bible et les histoires, les théologies se sont divulguées comme cela et ont permis à la réforme d'avancer. Alors traditionnellement, nous mettons souvent des Bibles, mais ils ont chacun des Bibles déjà à eux. Donc on a décidé de remettre des histoires des protestants, histoire de voir un petit peu quels sont celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi et quelles ont été leurs actions. Voilà. Et peut-être que Valérie veut dire un mot aussi. Valérie qui est présidente du conseil presbytéral.
Voilà, oui, alors au nom du conseil presbytéral, chers amis et chers enfants, qui confirmaient et qui ne confirmaient pas, je voulais vous féliciter de ce parcours que vous avez fait parmi nous, certains depuis que vous êtes tout petits et d'autres plus récemment. En tout cas, c'est une joie de vous accueillir, c'est une joie de suivre votre chemin dans cette paroisse et dans cette communauté. Et comme l'a bien rappelé Laurent Gagnebin, votre ouverture à ceux qui nous dépassent. C'est vraiment très important de vous dire que ce qui nous réunit tous ici, c'est cette ouverture à ceux qui nous dépassent. Et aussi cette capacité que j'espère vous garderez tous les matins de remettre en cause votre foi, vos croyances. Là aussi, Laurent Gagnebin vous en a dit un mot. savoir faire la différence entre la foi et les croyances, et encore une fois, ne pas avoir de certitude dans la vie, être capable de se remettre en cause tous les matins. Bravo et merci à vous, et surtout, restez parmi nous le plus longtemps possible. Vous savez qu'une paroisse est faite de beaucoup de bonne volonté, et peut-être qu'un jour, vous nous rejoindrez aussi au Conseil presbytéral, puisque vous savez que c'est une des caractéristiques de nos paroisses aussi, c'est que chacune des paroisses est gérée et administrée par un groupe de laïcs volontaires, dont j'espère qu'un jour vous ferez partie. Voilà, merci à tous.
Ils vont recevoir un livre que je vous montre avec, il y a Calvin, il y a Luther, mais il y a aussi Bach, il y a aussi Martin Luther King et différents autres grands protestants connus. Albert Schweitzer aussi.
Il
n'y
a pas beaucoup de femmes dans ce livre.
Si, il y a Pierre, si, il y a Pierre et Marie Durand. Marie Durand, personnage très important.
Je vous rappelle quand même ce que j'avais annoncé dimanche dernier, c'est que on a élu au dernier synode national, il y a une dizaine de jours, une femme à la tête de l'Église protestante de France. C'est la première fois depuis la réforme en France, c'est un tel événement. Aussi, je voulais dire qu'on est pratiquement à la parité homme-femme en ce qui concerne le ministère pastoral. Donc, autant pasteur-femme que pasteur-garçon, c'est ça, hein, Laurent, à peu près. Alors, je vous invite à vous lever pour manifester votre joie et l'accueil de ces enfants et de ces enfants.
Voilà, Père, nous avons manifesté notre joie là, pour ces enfants qui sont là, pour ces jeunes, qui sont une promesse aussi pour l'Église. Et nous t'en rendons grâce. Nous rendons grâce aussi pour ton alliance qui est renouvelée de jour en jour, de seconde en seconde, pour que nous puissions vivre une dimension qui nous dépasse infiniment, une dimension qui est marquée par ta présence et par l'éternité. Oui, Père, à travers des joies, à travers des peines, à travers des espérances, à travers des déceptions, à travers tant et tant de choses qui font la vie, nous te prions pour ces jeunes et pour tous les jeunes du monde, quels qu'ils soient. Il y a tant et tant de choses à te dire et à te présenter, Père. Mais toi, tu connais nos cœurs, tu connais ce monde. Oui, Père, que ta lumière brille dans ce monde et brille au cœur de chacune et chacun d'entre nous, et en particulier de ces jeunes et de bien d'autres encore. Prends en main nos vies, qu'elles puissent être des chants de reconnaissance, des joies, qu'elles puissent être des témoignages d'amour, de cet amour qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Que nous puissions sortir d'ici avec des visages rayonnants, avec cette joie qui puisse illuminer toutes celles et tous ceux que nous reconnaîtrons et qui fait de chacune et chacun d'entre nous les témoins de ta présence, les témoins de l'Évangile. Oui, Père, donne-nous la force, par ton esprit, de vivre selon ta volonté, de vivre en t'aimant, en reconnaissant ta présence et de vivre en aimant aussi les autres. Et en reconnaissant ta présence dans le regard des autres. Amen. Je vous invite à rester debout et prendre le cantique 246, que la moisson du monde est grande.
Thank you.
moment où nous allons vivre le partage de la communion, je voudrais vous rappeler que nous vivons ici une table ouverte, comme nous disons, c'est-à-dire que tout le monde est invité. Il y a un livre de Raphaël Picot qui dit « Tous invités hein, », si c'est ça, hein, Laurent. Tous invités, hein ?
Tous théologiens.
Tous théologiens. Ben, moi, j'ai traduit « Tous invités ». Voilà. Et c'est vrai que nous sommes tous théologiens, comme M. Jourdain faisait la pause. Vous savez, c'est notre question. Nous sommes tous invités, véritablement tous invités. On voit mal comment, au nom de Jésus-Christ, nous pourrions exclure quelqu'un, quel qu'il soit. Et je dirais même que celui ou celle qui se sent le plus indigne de participer à la Sainte Cène est celui ou celle qui doit venir au premier rang. Parce que je crois que c'est cette personne-là que le Christ appelle d'abord. Vous ne sentez pas exclu. L'exclusion, c'est quelque chose de terrible. Donc, au moment où on vous invitera à venir, laissez-vous faire par la parole et par l'esprit. Évidemment, si vous n'êtes pas protestant, parce que je trouve qu'il y en a, et si vous voulez ne pas prendre le pain et le vin, il est complètement exclu de notre part, vous forcez à prendre le pain et le vin, évidemment. Donc, vous le passez la coupe et le pain à votre voisine ou à votre voisin sans consommer, tout simplement. De telle sorte que vous puissiez être avec nous, ne pas vous sentir exclu, vous êtes invité, mais que vous puissiez ainsi garder vos manières de voir, de vivre, les préserver. Et ben, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait important aussi. Voilà. Ça marche ? Là, ça va. Bien. Alors, je vais demander aux jeunes de tout à l'heure de revenir, à Valérie aussi, Serge aussi, et puis Laurent, évidemment. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à chanter tout à l'heure? Mais vous êtes un peu éparpillés, il me semble. Hein. Vous êtes 1, 2, 3, 4, elles jouent un peu sur le fond. Ça marche? Pardon? Vous mettez là, par là? D'accord. Impeccable. Merci. Il est vraiment digne et juste. C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Dieu, Père éternel et saint, par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour la gloire de ta création, pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec la grande nuée des témoins d'une commune allégresse, nous exaltons, nous magnifions ton nom glorieux, saint, saint, saint et l'éternel. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré et pris du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Père, nous la réunis les uns et les autres avec ta présence au cœur même de nos vies. Nous la réunis les uns et les autres unis par ta personne. Dans le souvenir de ton ministère, nous sommes réunis aussi dans le souvenir du dernier repas. Ce repas qui ouvre la Pâque, ce repas qui dit la liberté, qui dit la naissance du peuple, qui dit la joie de ta présence aussi. Ce repas aussi qui dit ta mort et la résurrection. Oui, en Jésus-Christ, ta présence s'est affirmée au monde pour que le monde puisse vivre et qu'il puisse vivre dans l'espérance. Au moment de partager ainsi les signes de ta présence, ce pain tout simple et cette coupe, nous te prions pour que dans le geste du partage, de s'apprête de recevoir et de donner, nous puissions saisir qu'il y a là quelque chose de ta présence qui s'exprime. La présence dans un geste, la présence dans un regard, peut-être dans une parole. Merci Père de manifester ainsi par ton esprit ta présence, le souvenir de Jésus-Christ. Père, nous vous disons que cette communion qui nous rassemble, rassemble aussi toutes celles et tous ceux auxquels nous pensons tout particulièrement, des parents ou des amis, mais aussi tous les autres que nous ne pouvons pas saisir, qui sont la masse infinie d'une population qui nous échappe là aussi par sa taille. Mais combien de souffrances peuvent s'exprimer dans le monde, combien de joie aussi, combien de partage. Que dans ce geste du partage du pain et du vin, il y ait tout cela, qui puisse être réuni dans la simplicité et dans un geste qui est un témoignage à nous. Amen. Alors, il y a des gâteaux et des chouquettes, hein. Parce que pour les enfants, je précise, hein. Évidemment, on ne va pas donner le pain et surtout le vin à des enfants. Mais en revanche, eux aussi font partie de la communion, évidemment. L'esprit de Dieu est inscrit au cœur de leur vie, bien sûr, ça va de soi. Mais pour les recevoir, pour qu'ils ne se sentent pas exclus, marginalisés, et bien pour qu'ils soient avec nous véritablement, on a décidé, et là depuis déjà un certain temps, de leur offrir des petits gâteaux pendant la Sainte-Seine, pendant que là, les adultes, les grands, et bien, ils partagent le pain et le vin. Je suis désolé pour ces catéchumènes, ils n'auront pas droit aux chouquettes. Voilà. Je vous invite à vous lever. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le Maître nous appelle, venons prendre la scène avec lui. Et je vous invite à vous mettre en cercle, là, prolonger là, ce début de cercle, là, tout autour du temple. Peut-être plus simple, hein.
Ouais, je sais pas. Les enfants venaient tous devant.
Allez, les enfants, venez vous mettre devant, là. Le pain rompu, c'est le signe d'une présence. Une présence qui se partage et se donne, comme ces morceaux de pain que nous allons partager, et que nous allons nous offrir les uns les autres. Le pain rompu, c'est le signe de la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, c'est la coupe de l'Alliance. C'est la coupe qui nous dit que du sang a été versé pour que le monde puisse vivre dans l'espérance, dans la joie aussi.
Bonjour à tous. Pendant que nous sommes en train de prendre le repas, ces jours-là, lorsque l'Esprit Saint arrivait, il y avait plusieurs langues. Et nous venons d'écouter la langue française. Et tout à l'heure, le chant que nous allons vous entraîner pendant qu'on prend ce repas, ça sera la langue, une langue camerounaise qu'on appelle le Bassa. Mais il s'agit d'un chant que vous connaissez tous, surtout lorsque vous avez l'habitude de chanter avec sur les heures de la foi, les paroles. C'est le cantique numéro 139 sur les heures de la foi. Donc c'est ça qu'on va chanter, mais en langue Bassa. Et le titre c'est « Descend l'Esprit de Dieu vivant ».
Dans la communion de l'Église universelle et avec ceux-là même qui pensent ne pas avoir d'Église, nous voulons redire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je demande à Dieu qu'il vous donne d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, et qu'avec tous les membres du peuple de Dieu, vous soyez capables de comprendre combien l'amour de Christ est profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, puissiez-vous être ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen.
Voilà, je vous fais part de quelques annonces avant que nous nous séparions. Et je n'ai pas oublié l'offrande. Hein. La première des annonces, je voulais rappeler à Kian et Thibault qu'il faut qu'ils signent un registre. Hein. Ne partez pas sans avoir signé tout à l'heure. Et puis, je rappelle que nous sommes le premier dimanche du mois et que donc ce soir, il y a une cantate à 17h30 et que, ayant entendu la répétition, elle est vraiment très chouette. Et donc, je ne saurais que trop vous recommander de venir passer une fin d'après-midi extrêmement agréable tout à l'heure, si vous en avez le temps, bien sûr. Voilà. Ceci étant dit, je vous donne quelques nouvelles pour la semaine qui vient. Mercredi 7, eh bien, il y aura l'étude biblique sur Jean, donc à 20h30. Vendredi 9, il y a les JMJ, c'est jeunes et moins jeunes. Hein. Et nous penchons sur les différents passages du credo, et nous en sommes sur le Saint-Esprit, ça tombe assez bien, en ce temps de Pentecôte. Et puis dimanche prochain, c'est Denis Heller qui viendra présider le culte. Alors, il y a d'autres annonces, en particulier en ce qui concerne les écoles bibliques, c'est ça, hein?
Oui.
Voilà, et puis, tu viens, Vincent, là, pour les travaux. Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres annonces à faire, je ne sais pas.
Bonjour à tous. Donc, demain, c'est la sortie de fin d'année des enfants de l'école biblique. On ira au parc de Sceaux. Et nous rencontrerons et nous vivrons les expériences extraordinaires de la vie de Jacob, de Joseph, le fils de Jacob, donc dans la Genèse. Donc pour ceux qui ne seraient pas inscrits, il est encore temps, tout va bien. Et nous partirons, pas d'ici, mais à 9h30 de Denfert Rochereau.
Alors bonjour, oui, ça fait un petit moment qu'on en parle et je voudrais qu'on organise un petit peu une équipe de nettoyeurs au niveau du temple. C'est-à-dire qu'ils puissent entretenir le temple, qu'on puisse se retrouver, par exemple, un samedi, pour nettoyer, dépoussiérer, enlever des traces de doigts un petit peu partout, à droite, à gauche. Donc, on puisse un petit peu cibler comme ça, d'un samedi à un autre, et qu'on puisse, disons, nettoyer l'intégralité du temple, et qu'on puisse le garder propre, parce que c'est un très beau temple, donc il faut le garder propre, et qu'on puisse, disons, comme ça, le nettoyer. Alors, cet été, il y a deux gros chantiers qui seront prévus. Celui de la verrière qui va être intégralement nettoyée, alors on sera harnaché évidemment, et ça permettra aussi de regarder son état, la structure, un petit peu son état, voir un petit peu comment ça se passe là-haut. Deuxième chantier, ça sera l'orgue, puisqu'il va être entièrement dépoussiéré, nettoyé, ciré, toutes les boiseries vont être nettoyées cet été. Donc pareil, ça sera un gros travail, harnaché et tout. Alors on aura besoin de main-d'œuvre, surtout pour nettoyer, dépoussiérer, par exemple vous avez des grilles tout autour de chauffage, il faut les nettoyer, passer l'aspirateur régulièrement dedans. Donc, ça permettra, disons, d'entretenir tout ça. Alors, ceux qui sont intéressés, je pense qu'il y en aura beaucoup, et ils peuvent venir me voir à la fin. On se communiquera nos adresses mail. Ça sera beaucoup plus facile pour se contacter et organiser un samedi où on peut se retrouver et peut-être manger ensemble, là, d'ailleurs, sur une terrasse, d'ailleurs, qui est agréable et fleurie. Manger ensemble et se retrouver donc une partie de la journée du samedi pour faire tout ça. Voilà.
En complément, si vous voulez, sachez qu'il y a une équipe qui nouvelle dans la paroisse, une équipe de confituriers. Voilà. Ça mérite le coup d'être souligné. Il y a quelques personnes qui vont se réunir, je crois, demain et mardi pour faire des confitures. Le marché ayant lieu aujourd'hui. Pour préparer la fête de l'amitié qui aura lieu à l'automne prochain. Voilà. Et cette fête se prépare longtemps à l'avance, hein, faut pas le perdre de vue, évidemment, si on veut que ce soit un succès, ça va de soi. Alors, si un jour vous partez en vacances comme ça, si vous allez dans des régions, si vous allez dans le Tarn et que vous dites, tiens, la charcuterie du Tarn, c'est pas mal, vous pouvez revenir avec deux ou trois petites choses pour la vente. Ou si vous allez en Alsace ou en Bretagne ou n'importe où, bon, du miel, je ne sais trop rien. J'ai encore une annonce à faire, c'est l'offrande. Pour que cette offrande soit faite dans la joie et dans l'esprit aussi, Eh bien, je vous inviterai à chanter le cantique 205 pendant cette offrande. C'est à toi la gloire. Parce qu'évidemment, un jour comme celui-ci, où il y a Sainte-Seine, accueil de jeunes, des catéchumènes, que sais-je encore, hein, je veux dire, évidemment, on chante à toi la gloire. Voilà, c'est le 205. Voilà, pense. Voilà. Soyez certains que la flamme de l'Esprit brûle en vous. Soyez certains que la bénédiction du Très-Haut est sur chacune et chacun d'entre vous. Soyez certains aussi que jour après jour, Dieu vous accompagne et que quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, il est toujours à vos côtés pour vous faire vivre et vous relancer toujours dans la vie. Oui, le Seigneur vous bénisse et vous garde. Allez en paix, maintenant et à jamais. Amen. Je vous invite à prendre le 391, le petit chant du 391. Bonne fête de Pentecôte, bonne fête à toutes et à tous, bon dimanche et à bientôt, j'espère.
Amen.